I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Manuel a un premier échec avec son micro.
Ouais, c'est vrai, ton micro il bouge beaucoup, Manuel.
Tu es pas serré un peu à la fin?
Je suis mal loti, personne s'occupe de ce micro, putain de micro là.
Bah, c'est le tien.
Comment ça va, les gars?
Bah, attends, d'abord on règle le micro de Manuel.
D'accord.
Et après on
règle les problèmes.
Manuel, c'est bon, ça va?
Ça va aller.
Vous allez bien?
Ça va aller.
Bah, dis donc, il est passé vite l'échec.
C'est fou que t'aies pas un assistant pour gérer tous les trucs comme ça.
Bah, normalement il y en a un. Et il va falloir en trouver un autre.
Ça va, les gars?
Ça va et toi?
Oui, très bien. J'ai demandé à GPT-4 d'analyser notre podcast.
Sûr en fait.
Et il se trouve que
c'est vraiment un échec votre merde là.
Avant l'IA, Romain n'avait aucun sujet.
C'est vrai.
Non, aucun.
Depuis l'IA,
il en a plein.
Romain a plein de
mais
sujets.
Mais moi, je sais pas ce que je fais là. Hein.
Mais
je pense que.
Mais globalement,
je pense que ce qui m'arrive, je le mérite pas. Hein.
Ah ouais, tu penses?
Ouais, je pense.
Il faudrait que t'écoutes le précédent podcast qu'on a fait.
Ouais.
Qui parle du syndrome de l'imposteur.
T'as raison.
Et ça pourrait t'aider, Romain.
Écoutez, on va parler de l'échec.
Ça n'a aucun rapport avec la poste. Je pense qu'il n'avait pas compris le sujet d'avant.
Ah, peut-être.
Mmh. Ah.
Non, c'est l'imposteur. C'est en un seul mot.
Ok.
Parce que sinon, on dit impostier.
Voilà.
Ouais.
Ça n'a rien à voir.
Moi, j'étais avec la ref de l'âge de Manuel qui dit l'âge, c'est pour ceux qui travaillent à la poste, etc. C'était pas ça.
Non.
Ok.
T'as dit ça, toi?
Jamais
oui.
Dit ça, moi.
Si. Quand on te dit quand même, t'as l'âge de.
Ah, non, la question. L'ancienneté. C'est comme l'âge, mais ça, c'est un autre mot.
Tout à fait.
D'accord.
L'âge, c'est Kylian Mbappé.
D'accord. Très, très bien.
Rien à voir. Moi, tu ne me parles pas d'âge.
Vous gérez comment l'échec? Ça va être la question de ce podcast. N'y répondez pas tout de suite.
Ah, ok. Ah. Ok, putain, bah, j'ai pris une grande inspiration. Moi, je me préparais à répondre.
Alors, on peut poser une question plus bateau pour démarrer un peu le podcast.
J'ai préparé un diapo, moi.
Est-ce que vous avez déjà échoué?
Bon, alors là, oui.
Jamais. Léo et
alors,
moi,
là,
jamais.
Tous les jours, j'échoue. J'échoue constamment.
Non mais sérieux,
ouais.
Tu considères que tu échoues tous les jours?
Ah oui.
Ok.
Tous les jours, j'échoue à au moins un truc parce que je suis pas bon, parce que je suis pas dedans, parce que je l'ai sous-estimé. Tous
c'est
les jours,
bien personnel.
Tous les jours, ma vie n'est faite que d'échecs et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de réussites dedans.
Manuel.
Oui, c'est moi.
Est-ce que tu échoues? Est-ce que tu as déjà échoué?
Bah, dans la mesure où on travaille au même endroit.
Quel connard. C'est bien celle-là.
Oui, mais évidemment, bien sûr.
Mais j'ai l'impression que vous écoutez, vous échouez, mais genre vite fait.
Ah non.
On voit vite que c'est un échec et puis hop, c'est fini quoi.
Non, pas du tout.
Alors par contre, pour répondre à ça, j'échoue tous les jours, mais j'en fais pas un drame. C'est-à-dire, je me dis pas, oh putain, là-dessus, je pensais que j'étais meilleur. Oh là là, j'ai essayé ça, j'ai pas réussi. Bon bah, j'y arriverai jamais. C'est juste que j'ai accepté que l'échec était une possibilité. C'est très simple, de toute façon, il y a une chance sur deux. Donc je pars du principe que ça pourra pas toujours être la même, ça pourra pas toujours être une réussite. Donc il y a peut-être 50% des cas, voire plus, dans lesquels c'est un échec, mais c'est pas grave. Je passe au prochain
truc. Il y a des gens pour lesquels c'est plus.
Il y a des gens pour lesquels c'est beaucoup plus, bien sûr.
C'est personnel ou vous pensez qu'on peut aborder la question de l'échec de façon universelle et il faut juste s'adapter et se dire que peu importe l'échec, tant qu'on ne parle pas de danger de mort, en fait, tout va bien. Quoi.
C'est universel, je crois que ça s'apprend. T'apprends à échouer. C'est comme ça que t'apprends à faire du vélo. Hein.
Donc, quand on parlait dans l'ancien podcast du syndrome de l'imposteur, le fait de dire, par exemple, dans un autre registre, « Non, mais moi, tu comprends, c'est parce que, tu vois, c'est plus compliqué que tu penses. Non, mais c'est parce que moi, je peux pas... » Donc, ce truc-là, de vivre l'échec de façon plus dramatique que la moyenne, c'est un choix, c'est pas réel.
C'est pas un choix, c'est un conditionnement. Ça part du système éducatif.
Okay.
Dans le système éducatif à la française, on ne valorise pas l'échec.
Okay.
on lui dit pas, tu as essayé, tu as appris quelque chose, réessaye une autre fois, tu verras, ça va être mieux, et puis réessaye encore une autre fois, et tu verras, tu vas y arriver.
On dit que t'as 5 sur 20 et c'est de la merde.
On te dit vrai ou faux. Voilà ce qu'on te dit. Et donc, c'est un problème parce qu'on conditionne beaucoup, dès le plus jeune âge, la réussite au fait de... d'avoir la bonne réponse ou la mauvaise réponse.
Bah, la réussite ou rien, en fait.
On ne conditionne pas le fait que la réussite découle d'une succession d'échecs, mais d'une rigueur dans la pratique, d'une constance dans l'effort, pour potentiellement arriver à un autre résultat.
Je crois que ça explique notre niveau en anglais.
Ah.
Le fait de voir que à chaque fois que quelqu'un essaie de prendre l'accent,
yes, please let me know.
Tout de suite, on se fout de sa gueule. Par exemple, on pourrait se foutre de ta gueule.
It's true.
Bah, je crois qu'au bout d'un moment, on n'essaie plus. Et ça devient classique et juste être un bon français et être quelqu'un d'humble que d'avoir un accent de merde. Parce que si t'essaies, tout le monde va se foutre de ta gueule.
Quand on
parleras jamais bien anglais, mais au moins, on se fout pas de ta gueule.
Quand on essaie de parler anglais dans l'école, on reçoit de la part de ses interlocuteurs 20 lignes avec marqué Duolingo en caps.
C'est ce que j'ai envoyé la dernière fois.
Quel connard!
Je lui ai dit, laisse tomber. Non, là, c'est. Mais c'est-à-dire que même moi qui parle français, je comprends pas.
Bon, donc le premier point.
Attends.
Vas-y, okay.
Toi.
Oui?
Quel est ton rapport à l'échec? T'échoues régulièrement?
Ah ouais, toutes les secondes.
Hein. Toutes les secondes,
ouais.
C'est beaucoup.
Ouais.
Ça laisse peu de place aux réussites quand même.
Mais je crois que, alors, à la fois c'est une force, à la fois c'est un problème. Manuel, j'aimerais bien que tu réagisses à ça pour moi. Mais je pense que je m'en branle tellement que parfois c'est dangereux. Mais du coup, ça me permet par contre d'aller beaucoup plus vite que la moyenne. Ça, j'en suis sûr et certain.
T'es vraiment une intelligence artificielle.
Non mais en fait,
il a pas trop d'ego, Romain. C'est
on
ça qui est bien.
Tu te mets dans un pong et tu fonces dans tous les sens.
Romain
et au bout d'un moment, ça marche.
Romain ne se vexe jamais.
C'est vrai.
Ça c'est la raison pour laquelle il nous supporte tous les deux.
Quoi Toi surtout.
Et donc il se vexe pas. Il rebondit assez vite. Donc c'est un peu une balle magique. Tu peux la jeter un peu. Sur tous les murs.
Dis-moi que c'est ta bio Twitter.
J'ai une balle magique.
Ta nouvelle bio Twitter.
Oh putain.
C'est vrai qu'à certains moments, ça frôle un peu l'inconscience.
Ouais. Ouais. Parfois, Manuel me dit attention, là, c'est quand même dangereux ce que t'as
jackass,
fait.
En fait.
Et je me dis ouais, ok, c'est vrai. Bon, j'ai appris, machin. Mais il y a une partie de mon cerveau qui veut pas se dire attends, arrête-toi deux secondes parce que ça vraiment. Il faut pas juste que tu te dises maintenant que tu l'as fait, tu le feras plus. C'est déjà dramatique de l'avoir fait. J'ai pas trop cette partie-là en fait.
Ouais, t'es vraiment. C'est ce que je disais, t'es un jackass en fait. T'es un mec qui dit peut-être qu'il y a un danger, mais j'en serais pas sûr tant que j'aurais pas tenté.
Bon,
faisons-le.
Non, j'ai quand même grandi et je suis moins tête brûlée qu'avant. Avant, ouais. Il pouvait y avoir des trucs. Maintenant, je sais me mettre des filtres automatiques qui font que, avant de faire certains trucs, je me dis. Bon, là, t'en parles dans pas longtemps à un tel, etc. Peut-être qu'il vaut mieux que t'en parles avant de faire ou autre. Et puis, il y a d'autres trucs où je me dis, bon, oh, et puis c'est pas comme ça, de toute façon, on me dira comment faire, et puis vas-y, on s'en fout. Voilà comment je gère, je pense, l'échec. Mais il y a des échecs qui font quand même plus mal que d'autres. Et il y a des trucs qui sont un peu plus douloureux.
Ça,
et qui
c'est une certitude.
Voilà, moi, il y a des trucs qui me prennent plus de temps que d'autres, hein, quand même.
À ce moment-là, moi, ce qui intervient, c'est le déni.
Romain, il gère que l'échec de banque.
Oui.
Voilà.
C'est vrai. Comme un bon monégasque.
Ben quand il y a des échecs avec la banque, par exemple, c'est un peu plus long à
tu vois
c'est vrai, c'est un peu plus long.
C'est à ce moment-là qu'il boit.
C'est ça. Donc non, je pense que ça... Mais bon, là où je suis d'accord avec vous, c'est que peu importe...
Il n'y avait aucun sens à cette phrase.
C'est vrai.
Je pense que... Mais bon,
c'est... Non.
Parce qu'il était en train d'auto-réfléchir, je pense.
Et puis, en fait, mais c'est parce que à la fin de la fin, voilà.
Ok. Effectivement.
C'est très clair.
Ouais.
Le premier point, c'est.
Bah non, c'est bon, je pense que t'as tout.
Est-ce qu'on peut parler putain du premier point pour me casser les couilles? L'acceptation de l'échec.
Oui, mais ça, c'est le sujet depuis tout à l'heure.
Mais c'est le sujet depuis tout à l'heure. Mais du coup, c'est le premier point. C'est comment est-ce qu'on fait pour accepter l'échec? Ou moi, je vais même aller plus loin. Comment est-ce qu'on fait pour presque plus trop s'en rendre compte? Si vous voulez être un peu kamikaze comme moi, c'est. Il se passe un truc, on vous engueule, c'est.
C'est pas souhaitable.
Bon, ok. Alors moi je dois l'avouer, il y a quand même des trucs où quand ça se passe,
là
où
vous on apprend pas d'accord là-dessus.
Ah ben là où on apprend le plus, c'est quand même quand on a conscience de ses échecs.
Et quand ça te fait mal.
Alors il y en a certains qui me font mal, mais il y a des trucs à la fin de la fin où je me dis c'est pas dangereux.
Non, ce qui te fait mal, c'est quand je t'engueule. c'est pas l'échec en lui-même, c'est ça qui est dramatique.
Mmh. Oh là, ça, oh la psychanalyse est top là. Attends.
Non mais c'est alors d'un autre côté c'est vrai parce que l'échec en lui-même, je me dis bon, au bout du bout, c'est pas une personne en face avec qui je vis ou machin, il y a pas un truc dramatique. Non mais c'est vrai que ça va avec l'estime de ceux avec qui tu travailles.
Mais attends, mais du coup, toi tu kiffes l'échec en fait. Est-ce que t'as
pas... Non, je kiffe
bah,
pas
c'est
ça.
Un peu ce que t'as dit. T'as non, dit tu, non. Tu t'en fous globalement quoi.
Non, mais je dis juste que vu que je sais que ça fait partie du chemin, je m'y arrête pas quoi. Je mais l'accepte très facilement.
Est-ce que au bout d'un moment, c'est pas comme quand tu vas à la salle et que le lendemain t'as pas de courbature?
Ouais, je suis alors, tu je suis tellement d'accord.
Tu te dis bah en fait j'ai travaillé pour rien parce que j'ai pas mal. Mm. Est-ce qu'au bout d'un moment avec l'échec c'est pas pareil? Si t'en retires aucune expérience négative.
En fait, avec le temps, c'est juste que j'apprends à faire la différence entre les échecs qui sont vraiment graves et importants. Et là, on en parle, on a quand même des vraies discussions et ça implique même un changement au sein d'un process ou de quelque chose, ben, tu vois, de fondamental. Ou alors, il y a un échec qui fait que ça se règle assez vite et on le comprend.
Pour moi, un échec où de toute façon, bah, t'y peux plus rien. C'est pas nécessaire d'y rester, d'y penser pendant des jours, en fait. Tu l'acceptes, mais par contre, il faut en retirer une leçon. Faut pas juste l'ignorer. Il faut dire, bah ok, pourquoi ça a été un échec? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je referais pas?
Ça t'apporte quoi l'expérience en plus, Manuel? Une fois que t'as cette expérience-là d'assumer les échecs au fur et à mesure, de les contrer ou de les apprendre, aujourd'hui, quand tu vis un échec, il se passe quoi par rapport à il y a 20 ans?
Tu relativises. Pour être brillant, il faut accepter l'échec et maths.
Pourquoi?
Vous me fatiguez.
Ah oui. Voilà, c'est tout. C'est juste du relativisme. En fait, c'est la. Ton échec, il est relatif à la conséquence de cet échec. Ou aux conséquences de cet échec. Donc, c'est pas. On s'en fout que t'aies échoué. En fait, ce qui est important, c'est quelles sont les conséquences de cet échec. Si les conséquences ne sont que pour toi, déjà, c'est pas très grave. Ouais. Mmh. Si les conséquences sont pour d'autres. C'est un petit peu plus grave.
Je suis d'accord.
Et si les conséquences vont toucher à des valeurs fondamentales, d'intégrité, d'engagement, de moralité, etc., etc., ça devient encore plus grave.
C'est vrai.
À la rigueur, sur un deal, tu peux perdre de l'argent, c'est pas très grave. T'en regagneras.
Tu vois.
Mais passer outre le consentement de quelqu'un, son avis, etc., etc., ça, c'est plus ennuyeux.
Moi, je pense que les échecs les plus importants, ça serait ceux qui sont liés à ton image aussi. Tout ce qui peut se faire de façon publique.
Je suis d'accord.
Donc, deuxième point.
À le deuxième point, vous allez le détester.
Oh là.
Vos exemples perso.
Nos exemples perso.
Ouais, c'est
ah
quoi
attends,
si vous deviez...
Il faut nous en parler avant, ben, ça, voilà. Moi, j'ai aucune mémoire.
Si vous deviez retenir un échec... qui vous a fait beaucoup apprendre.
Oh, j'en ai un.
Vas-y.
Sur ma vidéo TikTok, je voulais faire 3 millions de vues et j'ai fait que 2 millions 6.
3, ta gueule, j'ai vraiment envie de te coller des claques. En plus, c'était tellement sensible. Ouf, j'en ai un. Bon, on va laisser réfléchir Léo. Manuel, t'as un moment ou un exemple qui te vient en tête où tu te dis, putain, là, j'avais quand même vraiment merdé. Et depuis ce moment-là, j'ai complètement changé ça et ça m'a appris beaucoup de choses.
Écoute, à part toi, je vois pas.
Ok, merde.
Papa, je vais
vraiment... Oh ta gueule! Oh l'enfer! Oh quel échec, t'imagines? Putain! Pour moi, j'entends. Hein.
Avoir répondu à ton message, peut-être.
Ouais, je vois.
Non, je vois pas. Non, sinon non.
Moi, je. Pour moi, c'est juste des vidéos qui n'ont pas plu, en fait. Ça m'est arrivé peut-être deux fois, que ce soit unanime, j'entends, une vidéo qui ne plaît pas. Pour moi, c'est mes plus gros échecs. Parce que c'est ce qui m'importe le plus dans la vie, en fait. C'est de faire un truc qui plaît aux gens, qui rassemble les gens. Il y a une conséquence qui m'intéresse. C'est de provoquer quelque chose, l'émotion que j'ai envie de provoquer. Et ça m'est arrivé une ou deux fois que ça ne marche pas. Et là, c'était un vrai échec et une vraie remise en question. Et j'ai vraiment fait une introspection de « Ok, pourquoi ça plaît pas aux gens? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je pense mal? Etc. » Et c'est là que je me suis beaucoup remis en question. Et je pense que c'est mon plus gros échec, c'est ça.
Okay.
Et ça m'a effectivement appris des trucs.
Moi, je pense que, puisque vous me posez la question...
Et donc oui. Toi, Manuel, c'est quoi?
Pardon?
De...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a un truc que je continue d'apprendre, mais qui m'avait vraiment... Enfin, à un moment, je me souviens, ça m'avait vraiment blessé. Et je me suis dit, putain, mais quel con, comment j'ai pu croire à ça? C'est le fait d'être... J'étais vraiment, pendant une période, trop utopiste. Tout était toujours... oui, oui, bien sûr, ça va se passer tout de suite. Je pouvais promettre des choses aux équipes, etc. Du fait que, ah non, mais ça, c'est sûr, ça va se faire, ça va être trop bien. Donc et puis, tu vas voir. Je m'engageais de fou parce que j'étais sûr que les gens à côté de moi étaient autant à fond que moi dans le sujet. Mmh. Et ça m'a vraiment fait mal de me dire, attends, redécroche ton tel, pose les questions vraiment de façon très transparente, etc. En lui disant, attends, ça, on va vraiment le faire ensemble, il va se passer ça, etc. Et d'entendre le, ah bah écoute, pas du tout, parce qu'il faut que j'en parle aux équipes, puis ça va peut-être pas se faire maintenant, puis ça maintenant, plus tard, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point que j'ai dû travailler.
Les promesses
n'engagent que ceux qui les écoutent.
J'attendais qu'ils le disent.
Voilà.
Mmh. Okay. Donc,
je travaille toujours dessus, mais pour moi, c'est un échec de vie, quoi. C'est le fait de me dire, non, toi, quand t'es à fond dans un truc, arrête d'entendre ce que tu veux entendre. Tends vraiment l'oreille, entends la personne qui est un peu indécise, qui te dit que t'es pas forcément et tout, alors que toi, dans ta tête, c'est tellement banger l'idée que tu obligé, ça va se faire. Tu vois.
Tu comprends le rendez-vous chez Audica la semaine prochaine?
À toi, Manuel.
Pardon?
De
ton plus gros échec.
J'en ai quelques-uns en tête, mais je veux voir.
Waouh! Alors, ça, par contre, c'est terrible. Il en a pour toi.
Ah ouais, apparemment.
Waouh!
Vous voulez que je vous dise?
Ah bah ça m'intéresse plus.
Je pense qu'au début, de la carrière de Manuel, je pense, fait l'erreur de croire aux êtres humains plus qu'en leurs compétences.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
J'en ai un aussi. Je pense qu'on parle de la même chose, mais on peut pas le dire.
Bah parce que je pense qu'il y a eu des gens à un moment dans ton entourage où, parce qu'ils faisaient partie de ton entourage, t'as peut-être cru qu'ils étaient compétents. Et t'as mis du temps à te rendre compte que, en fait, si tu juges que la compétence et pas le fait qu'ils fassent partie de ton entourage, c'est pas le cas. Et je pense que ça, c'est un truc qui, à mon avis...
Dire qu'ils étaient compétents, mais en deux mots.
Pas mal. C'est ça.
Toi, Léo, c'est quoi?
Est-ce que ta chaîne YouTube, c'est un échec?
Quoi? Ah, putain. Pas du tout. J'aurais dit que ça, c'est... Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un échec, au contraire.
Ah ouais?
Il y aurait pas Influx sans ma chaîne YouTube.
Mais j'aurais jamais connu Manuel, j'aurais jamais dit en face « ta chaîne YouTube quand même ».
C'est vrai, mais le projet en lui-même, au-delà de ce que ça a pu créer, est-ce que t'es allé là où tu voulais aller? Est-ce que ça a marché comme tu le voulais?
Bah exactement comme je le voulais, c'est-à-dire que j'ai appris ce qui était votre quotidien.
Ok, mais c'était pas la volonté initiale.
Bah, le projet c'était pas de... Enfin, tu vois, je ne vais pas me transposer d'un patron d'agence qui est dans plein de pays en vivre de YouTube. Parce que même si je vivais extraordinairement de YouTube, ça n'atteignait pas...
J'ai bien compris que ce n'était pas l'objectif.
Voilà.
Mais est-ce que tu as fait ce que tu voulais avec cette chaîne YouTube?
Globalement, j'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris ce qui étaient vos contraintes, en fait. C'est-à-dire tenir un rythme éditorial, publier régulièrement... subir les algos, enfin tu vois, tout un tas de trucs. Et okay. Je pense que sans ça, sans ça, il y aurait pas Influx aujourd'hui.
Ah bah ça c'est sûr et certain.
Voilà.
Donc c'est un échec.
C'est si tu veux, mais
t'es pas devenu youtubeur, t'abuses.
Ouais, c'était pas vraiment le projet.
Mais de fou, c'est pour ça que je dis ça.
t'es pas milliardaire comme tous les youtubeurs, donc.
Ah oui.
Non, je crois pas.
T'as encore quelques vidéos à faire, non, cette année?
Ta gueule.
Prochain point?
Oui.
L'apprentissage de l'échec. Est-ce que vous prenez le temps de vous dire, oh, il s'est passé un truc, ok, qu'est-ce que j'en tire, etc. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de le faire ou c'est un peu inconscient? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu inconscient. Oh putain, quel con, machin et tout sur le moment. Mais c'est justement, je pense, un défaut, c'est de passer trop vite à la suite.
Ah non, moi, je retourne le truc dans tous les sens.
Ah ouais?
Ah ouais. Par contre, autant je m'arrête pas à ça, autant je m'y attarde quand même un peu. Et je fais vraiment une pause de bah, pourquoi ça a merdé, à quel point c'est ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Ouais, je m'y attarde vraiment, je me torture le crâne avec ça pendant des heures et après j'en reparle plus par contre. Et quand quelqu'un m'en parle, surtout je vais pas rentrer dans son jeu et moi je suis passé à autre chose.
Ah, mais ça me donne envie d'essayer.
Moi
mais
personnellement, je fais une grosse introspection pour en retirer le maximum, parce que j'ai plus envie que ça arrive.
Moi, je fais souvent la même connerie quand même.
Bah, ça explique peut-être pourquoi
ouais.
tu le fais.
Ouais, ouais. Manuel, tu prends le temps. Est-ce que déjà tu. Enfin...
L'apprentissage de l'échec, tu dis
ouais, ouais.
Bah, oui, on a pas mal d'apprentis spécialisés dans l'échec. Hein.
Elle est trop bien. La punchline exceptionnelle. Non, mais déjà, est-ce que tu détectes à un moment que c'est un échec? Parce que j'ai presque l'impression qu'avec l'expérience, tu prévois à quel moment il va peut-être potentiellement y avoir un échec. Donc, tu prévois aussi d'autres plans d'attaque. Et à certains moments, je sais qu'il y a eu des discussions où tu m'as dit « Non, sur la station, ça marche pas, mais on va se concentrer là-dessus. » Mais c'était presque un coup de poker et une carte en plus de ce côté-là, mais c'était presque voué déjà à l'échec. C'est comme si parfois tu faisais des choix en sachant que pour qu'il y ait un choix qui fonctionne, il y allait avoir d'autres échecs que tu prévoyais avant.
Souvent, je laisse des échecs arriver pour permettre à l'organisation de comprendre des choses. Ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire que tu fais ton rapport entre passer du temps à expliquer que ça va pas marcher ou laisser des gens constater que ça ne fonctionne pas pour aller vers autre chose. Ben souvent, l'option 2 te permet de gagner du temps.
Ouais, tu leur évites pas l'échec.
C'est un peu kamikaze
pour qu'ils le vivent.
Surtout pas.
Hmm. Oui, parce que sinon, ça veut dire que tu devras toujours être sur leur dos, en fait.
Ben, c'est ça.
Ouais, mais c'est un enfer. Moi, je protège trop. Je sais pas faire ça. C'est impossible. Parce que je me dis forcément quel est le connard qui va perdre du temps après pour régler les problèmes des autres qui n'ont pas tiré la chasse d'eau. Ben, c'est moi. Voilà. Donc,
ouais,
voilà.
Mais le problème, c'est que tu les patternes trop.
Mais surtout, ils n'apprennent pas.
Ah, mais comment tu fais pour avoir ce feeling de la ligne, elle est tellement fine à certains moments.
Bah oui, oui, c'est sûr. Il y a des trucs avec lesquels on peut pas trop jouer. Il y en a d'autres sur lesquels tu dis bon, ça c'est pas très grave. Laisse l'échec avoir lieu.
Et okay.
Ça va permettre à l'organisation de mieux comprendre.
Ok.
Et ça va surtout te demander beaucoup moins d'énergie que de les convaincre. Où il aurait fallu que tu déploies une énergie folle pour les convaincre. Et pendant ce temps, tu peux faire autre chose.
Je suis un peu déçu quand même, j'aurais adoré voir Manuel avec un enfant.
C'est quoi le rapport?
Tu l'aurais laissé se noyer.
Ah bah, comme ça. Bon, si remonte à la surface.
Il
hein.
va apprendre ce petit con là. Faut pas s'approcher des ruisseaux.
Bon, c'est pas grave, t'en fais un autre. Hein.
Est-ce que vous prenez certains échecs pour des exemples que vous allez présenter vraiment à vos équipes ou dont vous allez pouvoir parler à votre entourage, etc. Est-ce que vous vous servez de certains moments qui sont des vrais échecs pour essayer d'en faire des vrais sujets?
Alors, premièrement, j'ai pas d'équipe. Deuxièmement...
J'ai pas d'entourage.
Deuxièmement, je suis seul.
Je te donne un numéro, Léo, faut que tu l'appelles tout de suite.
Souvent, il écoute ce podcast, donc il va m'envoyer un message juste après. C'est mon père qui me parle de ça. Genre, quand il y a une vidéo qui fait pas le nombre de vues espérées, etc. Et j'esquive un maximum la conversation. Je déteste parler de ça.
Ok.
Parce que, comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai déjà fait cette introspection, donc j'ai plus besoin de la faire. Mm. Surtout pas avec quelqu'un d'autre. Je veux être le seul à la faire, le seul à comprendre la leçon, pourquoi, etc. Machin. Donc, moi, une fois que c'est fait, personnellement, j'en parle plus.
C'est parce qu'il est pudique.
Tu es un peu pudique.
Ah bah ça c'est... Ah non, mais c'est sûr. Oui, mais là, ça j'en parle même pas parce que
actuellement, pendant ce podcast, je suis tout nu, mais sinon je suis pudique.
Il est pudique sur les vues, mais pas sur la vue qu'on a.
Ah non, ça non. Ça, c'est sûr.
Léo a beaucoup de mal. Faut aller chercher dans les tout petits détails
Oula.
Pour comprendre des trucs. Il y a peur. Des trucs, Léo, genre un an après, il me parle d'un truc et je fais oh, mais genre mec, c'est pour ça que tu me parlais de ça il y a un an et tout. Bah, un petit peu, mais c'est parce que c'est pas tout, c'était pas grave. Et je fais mais mec, je suis trop un connard de pote en fait. J'aurais pu le détecter de fou.
Oui, mais tu vois, ça, on l'a vu il y a 20 minutes avant de tourner ce podcast. Et j'ai pas attendu un an.
On en est là sur un prochain point qui parle de soutien émotionnel. Est-ce que vous pensez que justement un mentor, par exemple, peut aider à faire face ou un bon manager dans certains échecs et va vous aider à mieux les assumer, mieux les comprendre? Ou au contraire, est-ce qu'il faut les vivre tout seul?
Ah, oh, seul. Moi, je milite pour ça.
Moi, pas du tout. Hein.
Personne va m'expliquer pourquoi j'ai fait un échec. C'est à moi de le comprendre. Parce qu'après, je vais lui demander en permanence, en fait. Je peux pas dépendre de quelqu'un.
C'est
à moi de comprendre mes échecs et de les assumer. C'est pour ça que j'aime pas en parler avec quelqu'un, en fait. Je sais qu'il est moins bien placé que moi pour savoir ce que je ressens.
Oui, mais sur un truc qui t'arrive tout seul, mais quand c'est un truc qui concerne une équipe ou une entité... Mais
c'est là que j'ai pas cette expérience de ouais. l'équipe, etc. Et si vraiment ton mentor peut t'apporter une expérience sur cet échec parce qu'il l'a déjà vécu, ok. C'est pas mon style, mais ok, pourquoi pas. Mais moi, je suis pas du tout dans le fait d'en parler aux gens.
Ok. Manuel
mmh.
Je te demande pas si tu crois au mentoring, ça serait un peu con. Tu penses que justement ça peut aider et que ça peut aider même l'un et l'autre c'est-à-dire à la fois celui qui mentor ou celui qui manage. Parce qu'il y a un truc que tu as dit il y a déjà un moment, tu dis un super conseil, c'est d'observer les conneries que font les gens en appliquant vos conseils.
Oui, moi j'adore observer et apprendre des conneries que font les gens avec les conseils que je leur donne. Je trouve ça très bien. Ça m'aide beaucoup.
Je fais ça avec les films, moi.
Ah, tu m'as fait peur.
Quand il y a un nouveau film, je suis pas sûr de la qualité, je le conseille à un pote.
T'es un connard.
Et j'attends d'avoir son avis.
C'est un bêta-testeur.
Pour savoir si mois. Je vais le regarder.
Tu comprends pourquoi je mets des mois à regarder les films que tu me conseilles?
Oui, je comprends.
Donc pour toi, ça aide, Manuel?
Oui, je pense que ça peut aider. Ça dépend de qui tu es, en fait. Ça dépend. Si on prend vous deux, par exemple, bah, Léo, je vais le laisser tranquille. Je sais que s'il a envie de parler d'un truc, il va venir m'en parler. Alors que toi, je sais qu'il va falloir t'aider à comprendre ce qu'il y a derrière ce truc. Vous êtes très différents.
C'est marrant.
J'ai pas envie d'en parler.
On disait tout à l'heure que ça dépend aussi beaucoup de la gravité ou du risque. Et parfois, il faut faire face à un échec et apprendre par soi-même parce qu'on sait que c'est pas mortel. Comment est-ce qu'on peut, tout seul, si du coup t'es pas mentoré ou si t'es pas aidé par un manager ou autre, comment est-ce que tu peux apprécier et gérer le risque?
Bah, j'ai pas de réponse, j'ai pas réfléchi, merde.
Je comprends même pas la question.
Ouais.
Mais quand tu vas devoir prendre des décisions que t'as jamais pu prendre, comment est-ce que tu peux... Par exemple, j'avais lu un conseil qui était... Mais non, je l'ai pas lu, je suis con, on en a parlé ensemble avec Manuel. J'ai plus la métaphore, mais elle était très bien, et Manuel va la répéter. Quand tu veux prendre une décision... Pour savoir si c'est important, etc., ben imagine que la décision elle est derrière une porte et que en fonction de ce que tu vas faire, soit la porte se ferme à jamais, soit elle peut rester ouverte. Si la porte reste ouverte, c'est que il y a pas de truc très grave, etc., et que c'est pas une décision qui va être que dans un sens et que tu pourras jamais re-régler ou retoucher. Si c'est une décision qui peut se modifier à tout moment, bah tu peux foncer, tu verras bien si tu te prends de la merde dans la gueule, tu pourras revenir dessus. Mais je trouve ça compliqué quand tu débutes et dans une aventure, par exemple entrepreneuriale, de te dire bon. Attends, là je fais un prêt à la banque, j'investis quand même dans un truc énorme, si je suis dans la merde on va venir chercher peut-être mes biens personnels, je vais peut-être être à la rue et tout ça. Décision importante. De l'autre côté, bon, je vais embaucher une personne, il y a une période d'essai, bon, à tout moment si je me suis gouré, il y a cette période d'essai qui me permet de me séparer de cette personne-là. Donc tu vois, c'est apprécier ce risque-là.
J'ai pas le nom, mais il y a une IA qui permet de peser les pour et les contre d'une décision.
Quoi?
Ouais.
J'adore.
Bon, faut que je vais essayer de la retrouver pour la mettre dans la description du podcast. Carrément. Non, moi je me demande, est-ce que c'est grave, oui ou non?
Ok, donc t'as ta propre préférée.
Et si c'est grave, je me persuade que ça l'est pas. Et je fin du projet.
La question c'est, est-ce que c'est rédhibitoire ou pas, en fait? C'est juste ça. On peut résumer ça comme ça.
Et vous avez des citations ou des exemples de personnes très connu ou de personnalité publique.
On est vraiment ChatGPT pour lui.
Hein. Ouais.
Donne la définition de...
Dans l'univers, par exemple, de la tech, il y a des success stories qui sont nées d'échecs. Est-ce que vous en avez...
Toutes. Qu'est-ce que je te dise?
Bah rien, je suis d'accord avec ça.
Edison, c'est un échec. À partir de là, tout part d'un échec.
C'est vrai.
Ben voilà. Bah, c'est tout ce qu'il faut dire. Donc bougez-vous le cul, faites des choses, et puis au pire, si vous tombez, vous allez vous relever, quoi. En fait.
Oui.
Sauf si vous sautez dans le vide, vous ne pourrez pas vous relever. Donc c'est là où il faut faire la part des choses.
Vous allez vous aplatir.
C'est vrai, pas mal. Bon, et après ça fera des crêpes. Ça, c'est pas loin d'échecs, mais c'est pas vraiment des échecs, c'est des crêpes.
Ça, par exemple, cette conclusion, c'est un échec.
Ah ouais?
Est-ce qu'on va s'en relever? Probablement pas.
Évidemment. Mais, les gars, merci
comme,
en tout cas.
Comme on est dans le déni, c'était une super fin de podcast. Et vraiment, on n'aurait pas pu le finir d'une meilleure manière. Je vois pas comment c'est possible.
Allez, salut.
La bise.